Donc aujourd'hui, on va continuer notre étude sur l'Esprit Saint. Nous avons regardé qui était l'Esprit Saint, nous avons regardé un peu ce qu'il faisait dans le monde, dans la vie des croyants. Et aujourd'hui, on va regarder un petit peu ce qu'il fait dans l'Église, à travers chaque croyant, avec ce qu'on appelle les dons de l'Esprit. Donc on a vu que le Saint-Esprit était une personne de la Trinité, qu'il était Dieu, qu'il agit dans le monde en convainquant les hommes de péché, de justice et de jugement chez les non-croyants, et que chez les croyants, il agit en nous enseignant les choses de Dieu, nous expliquant, nous aidant à comprendre la Bible, en nous révélant les choses de Dieu, de Jésus, qu'il nous aide à témoigner de Jésus et qu'il nous aide à glorifier Dieu. Et on a vu qu'à partir du moment où on vient à Jésus, il vit en nous et qu'ensuite il produit un fruit dans nos vies à travers nos caractères. Et aujourd'hui, on va regarder le fait qu'il nous fait des dons spirituels, qui sont des capacités spirituelles que l'on utilise pour travailler et avoir une place et une activité dans l'Église. Alors on va regarder principalement trois passages ce matin, qui sont trois passages classiques sur les dons de l'Esprit. Et donc on peut se tourner dans 1 Corinthiens 12, qui est peut-être le passage le plus cité, lequel on pense, si vous avez déjà entendu parler des dons de l'Esprit, c'est peut-être la chose qui vous parle le plus. Donc dans 1 Corinthiens 12, on peut lire ensemble, Paul qui dit au verset 1, « En ce qui concerne les réalités spirituelles, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. » Donc il commence en nous disant qu'il veut qu'on sache ces choses et que ce sont des choses importantes, donc on veut ne pas être ignorant non plus, on veut étudier ces choses. Et ensuite, alors on va continuer à partir du verset 4, il dit « Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de services, mais le même Seigneur, diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. » Donc il y a une unité par l'esprit, mais en même temps une diversité par les tâches et les rôles de chacun. Et il continue au verset 7, il dit « Or à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre des dons de guérison par le même esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes, et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, et nous avons tous bu à un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Et on ne va pas lire le reste du passage. On peut continuer au verset 27, où il continue après avoir parlé du corps, en disant « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des enseignants. Ensuite viennent les miracles, puis les dons de guérison, les aptitudes à secourir, à diriger, à parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils enseignants? Tous font-ils des miracles? Tous ont-ils des dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs. Je vais encore vous montrer la voie par excellence. » Donc ça, c'est un des principaux passages. On peut se tourner dans Romains 12. Qui va nous donner aussi des détails sur les dons de l'Esprit. Donc Romains 12, on peut commencer le chapitre à partir du verset 1 à lire. « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement et celui qui a le don d'encourager à l'encouragement. Que celui qui donne le fasse avec générosité, celui qui préside avec zèle et que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. Donc ici, on a un deuxième passage qui nous parle des dons de l'Esprit. Et enfin, dans Éphésiens 4, on peut lire ensemble là aussi. Éphésiens 4, à partir du verset 11. Parlant de Jésus, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Prions ensemble. Jésus, merci pour ce matin. Dieu, nous sommes ici pour apprendre. Nous avons besoin de recevoir de toi. Nous ne voulons pas être ignorants sur ces choses. Et Dieu, ce sont des choses qui parfois peuvent sembler difficiles et qui, dans certaines situations, causent des divisions, mais qui sont des dons que tu nous fais, des cadeaux que tu nous fais. Et tu es un Père bon qui ne nous donne pas de mauvaises choses, qui donne de bonnes choses, Seigneur. Et nous voulons entendre ces choses et les accepter avec foi et les recevoir parce que ce sont de bonnes choses que tu veux nous donner. Parle à chacun d'entre nous ce matin, Seigneur, aide-moi à annoncer et à dire ce que tu veux que je dise. Que tu sois glorifié ici ce matin. En ton nom, nous prions. Amen. Normalement, j'ai à peu près 4-5 pages à enseigner. Et ce matin, j'en ai 7-8. Donc, j'essaie d'aller vite. Quand je préparais toute cette étude, j'essayais de regarder. Il y a quelques enseignants anglophones que j'aime bien écouter. Des personnes pour qui j'ai de l'admiration et je crois qu'ils sont des très bons enseignants. Et il y en avait un qui avait fait une série en, je crois que c'était 3 ou 4 mois, et où il passait un dimanche sur chaque don. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur ces dons. Et donc ce matin, on va passer rapidement dessus. Mais c'est quelque chose que vous pouvez approfondir par vous-même. Il y a des ressources, on va essayer de vous donner quelques éléments si ça vous intéresse par vous-même de regarder plus en détail. Il y a des livres en français qui sont très bons sur le sujet. Donc si vous dites qu'il n'a pas dit ça ou il n'a pas mentionné ça, c'est très possible. Il y aura peut-être des choses sur lesquelles je vais passer. Mais il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Alors, ce qui est intéressant et ce qu'on voit et qui parfois est surprenant dans la Bible, dans le Nouveau Testament et dans la manière dont Dieu agit et travaille dans le monde, on voit qu'il y a l'Église, mais l'Église, ce sont des personnes. C'est nous et d'autres. Et Dieu travaille de manière unie à travers les différents individus. Et c'est très intéressant. On voit que dans chacun de ces passages, Paul revient sur l'idée d'un corps avec différentes parties et avec chacun qui a un rôle à jouer. Et nous avons tous un rôle à jouer. Les gens dans d'autres églises de par le monde ont leur rôle à jouer, dans l'église avec un grand E, mais aussi dans l'église avec un petit E, l'église locale. Et on a vu dans le passage dans 1 Corinthiens qu'il y a cette idée d'unité par le Saint-Esprit, mais en même temps une diversité par les dons et par les rôles. Nous ne sommes pas tous appelés à faire exactement les mêmes choses et Dieu va équiper par ses dons, par nos capacités naturelles aussi, va nous donner à chacun des rôles et des choses à faire différentes dans l'Église. Et c'est marrant parce que on se dit que quand on se connaît soi-même, quand on voit, si vous avez été chrétien depuis un certain temps, que vous avez été dans notre Église, vous voyez qu'il n'y a pas d'Église parfaite, que toutes les Églises sont composées de pécheurs qui ont des défauts, qui ont toujours des péchés dans leur vie et qui sont toujours en proie à faire de mauvaises choses, à ne pas être parfait, à avoir de mauvaises intentions. Et quand on voit ça, on peut se dire, mais Dieu, ça me semble être un plan un peu bizarre. Pourquoi tu agis pas directement peut-être tu pourrais envoyer des anges. Eux, ils feraient pas de bêtises, ils s'occuperaient bien de la situation. Mais non, Dieu a choisi de nous utiliser. Et si Dieu l'a choisi, c'est que c'est une très bonne chose. Dieu a un bon plan. Dieu est sage d'une manière infiniment au-delà de ce que nous pouvons comprendre. Et donc Dieu a bien fait les choses. Et Dieu a décidé de nous utiliser en tant qu'individu dans cette unité de l'Église par l'Esprit pour accomplir sa volonté sur terre. Donc il va œuvrer à travers chaque croyant. Et c'est intéressant de remarquer que dans ces passages où il est question des dons, à chaque fois il est question du corps, à chaque fois il est question de cette idée que nous avons un corps qui est l'Église et qu'il y a plusieurs parties. Et Paul, dans un des passages qu'on n'a pas approfondi dans 1 Corinthiens, il va continuer en disant, ouais, si votre corps physique, il y a le pied qui dit non, j'ai plus envie de faire le pied, j'ai envie d'être le cœur, ou la main qui dit j'ai pas envie de faire mon travail demain, j'ai envie d'être une cuisse, on a un problème. Ça marche pas, il y a des soucis. Et c'est quelque chose de rigolo presque que Paul utilise pour nous le faire comprendre. On sait que si quand des parties de notre corps décident de ne plus fonctionner comme ils le doivent, des cellules, en général ça cause des soucis et des problèmes de santé et des problèmes qui peuvent amener la mort. Et Paul utilise cette illustration pour nous montrer qu'on a tous un rôle et quelque chose à faire dans l'Église et c'est important de le réaliser et de comprendre quel est notre rôle à chacun et de l'exercer, de le faire parce que sans ça, l'Église va avoir des soucis. Et c'est... ce matin, c'est peut-être... je vous mets en garde. Si vous n'êtes pas ignorant sur ces choses, si je vous annonce ces choses, vous avez une responsabilité de comprendre quels sont vos dons et de vous impliquer dans l'Église, avec un grand E ou ici à Calvary Chapel, selon les dons que Dieu vous a donnés. Et il y a une responsabilité, c'est pas quelque chose que Dieu nous donne et où on se dit non, moi ça va, j'ai autre chose à faire, ça m'intéresse pas trop, je laisse ça au pasteur. On va regarder après, mais... La question que vous pouvez vous poser ce matin et peut-être par la suite, c'est quel est votre rôle à jouer dans l'Église? Quel est votre don ou vos dons spirituels? On va regarder les dons. Et qu'est-ce que Dieu, par le Saint-Esprit, vous incite à faire? peut-être une note pour s'il y en a parmi nous qui ne sont pas croyants. Ce sont des choses que Dieu donne aux personnes qui croient en Jésus. Et si ce n'est pas encore le cas pour vous, je vous invite à venir à Jésus et à lui donner votre vie pour recevoir le salut premièrement, mais aussi ce don du Saint-Esprit et ces dons en particulier spirituels. Alors qu'est-ce que sont ces dons? C'est quoi cette idée? C'est un mot qui signifie grâce. Le mot en grec, c'est le mot charis, qui donne charisme. Quelqu'un qui a du charisme, c'est l'idée qu'il a quelque chose qui n'est pas de son fait, c'est juste qu'il est. C'est un peu une grâce naturelle, on va dire. Et dans la Bible, l'idée, c'est que c'est une grâce qui nous est faite, un don qui nous est donné. Donc c'est ce mot charisme. Et dans le monde de l'Église, c'est un mot qui donne le mot charismatique, qui est un mot qui est parfois utilisé pour décrire certaines églises ou certains mouvements. Mais ça vient de cette idée de charis, de grâce, de quelque chose qui nous est donné, un don. Alors, le nom de charismatique et ce nom... parfois, dans les mouvements d'église, est malheureusement amené à être associé à des mouvements qui font des choses bizarres. Alors, ça dépend un petit peu comment les gens comprennent le mot et peuvent comprendre les sujets. On va regarder les dons de l'esprit, mais il y a des mouvements où c'est amené à des extrêmes, je pense, qui sont complètement... indéfendable au niveau biblique et où il y a des choses très bizarres qui sont faites dans le sein de certaines églises sous prétexte que c'est des dons, que c'est l'esprit, que c'est Dieu qui fait des choses, des gens qui aboient ou qui rigolent de manière incontrôlée ou qui tombent à la renverse. Malheureusement, parfois, quand on entend le mot charismatique, on pense que à ces choses-là ou à des choses un peu bizarres, des choses où on est peut-être mal à l'aise. Mais l'idée de charismatique, à la base, ce sont les gens qui croient que les dons de l'esprit sont quelque chose pour nous en tant qu'Église aujourd'hui et qui les mettent en pratique. Certains chrétiens, certains groupes d'Église sont appelés des cessationnistes. Et ce sont ceux qui ça vient du mot cesser. Et c'est les gens qui croient que les dons de l'esprit étaient que pour une certaine période de l'Église. Peut-être que c'était que pour les apôtres. Des fois, ils essaient de défendre cette idée-là, ou ils essaient de défendre l'idée que c'était que le début de l'Église, et une fois que l'Église était lancée, qu'on a eu la Bible, que ça va, maintenant, il n'y avait plus besoin de ces dons plus incroyables pour nous en tant qu'Église. Nous ne sommes pas de cela, nous croyons que les dons sont pour nous en tant qu'Église aujourd'hui. Alors on a lu ces trois passages, et si vous recoupez ces passages, si vous vous mettez devant un papier et vous faites la liste, vous allez voir qu'il n'y a pas, il y en a certains qui sont présents dans différents endroits, il y en a pas mal, que c'est pas... aucune de ces listes n'est exhaustive. Et quand on regarde, il y a des livres ou des questionnaires qui essaient d'aider les gens à trouver quels sont leurs dons spirituels. On voit qu'il y a ces dons-là et qu'il y a d'autres dons, j'en mentionnerai quelques-uns, où il y a débat, peut-être que ce sont aussi des dons spirituels et on peut défendre à partir de certains autres passages. Et donc on voit qu'il n'y a pas vraiment on pourrait dire une théologie systématique dans un des passages qui nous explique, voilà, les dons c'est ça, je vous fais la liste exhaustive, c'est tout et il n'y en a pas d'autres, et point, la Bible ne nous le présente pas comme ça. Et donc il y a des discussions, je vous en mentionnerai quelques-uns, mais nous on essaie de rester quand même dans ce que la Bible dit. On essaie de ne pas outrepasser nos droits. Comme je vous disais, il y a des mouvements qui se disent c'est bon, les dons de l'Esprit, l'Esprit peut faire tout ce qu'il veut, de nouvelles choses, donc il va faire des choses peut-être un peu folle. Nous voulons essayer de rester sages et dans ce que Dieu nous a donné. Et si déjà nous nous concentrons et nous comprenons et nous exerçons les dons qui sont décrits dans la Bible, de la manière dont la Bible veut que nous les exercions, alors on sera sans doute en superbe position en tant qu'Église. On n'a pas besoin d'aller chercher au-delà. Et parfois, en tant qu'humain, c'est un danger. Ce qu'on a devant nous, on nous dit « voilà la liste des dons » et on dit « ouais, mais est-ce qu'il n'y en a pas d'autres, des plus mystérieux, des plus ésotériques sur lesquels je pourrais me concentrer, etc. » Cette tendance-là, ce n'est pas une bonne tendance. C'est une tendance de notre chair de vouloir chercher des trucs midi à 14h, des choses dont on n'a pas besoin d'aller chercher les définitions. Dieu nous a donné sa parole, et sa parole, nous croyons qu'elle est complète et qu'elle est suffisante pour nous. Alors regardons ce qu'il y est, ce qui est dedans. Et on va regarder ces trois listes dans ces trois passages, et je vais leur donner trois intitulés pour nous aider à peut-être les situer et à comprendre l'utilisation qui en est faite. On pourrait dire qu'on a dans le passage dans Romains, qu'on a des dons de motivation, qui sont des dons qui sont des choses qui vont motiver notre conduite, nos réactions face aux situations, notre manière de voir les choses. Ensuite, dans Éphésiens, on pourrait parler de dons de maturation, des dons que Dieu a donnés pour faire grandir et croître les croyants dans l'Église et pour que l'Église soit plus mature. Et ensuite, on peut parler de dons de manifestation dans 1 Corinthiens 12, avec l'idée que ce sont des dons qui manifestent de manière incroyable, de manière plus marquante, la présence de Dieu parmi les croyants dans l'Église. Alors on va regarder en premier donc le passage dans Romains 3. Donc si vous voulez vous y retourner, dans Romains 12, pardon. Excusez-moi, Romains 12. On a lu un passage assez large. Mais on peut lire à partir du verset 6 pour nous le rappeler. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement et celui qui a le don d'encourager à l'encouragement. Que celui qui donne le fasse avec générosité, que celui qui préside avec zèle. Et que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. Donc ici, on voit sept choses. La prophétie, le service, l'enseignement, l'exhortation, la générosité, la direction ou l'administration, et la miséricorde, ou la bienveillance ici dans le texte. Alors le premier, c'est la prophétie. Et nous, on en a déjà parlé. L'idée de prophétie, quand on utilise ce mot de nos jours, c'est l'idée de prédire l'avenir. Mais dans la Bible, c'est pas forcément le sens premier. Le sens premier, c'est d'annoncer les vérités de Dieu avec force. C'est de proclamer la vérité, que ce soit une vérité passée, présente ou qui soit dans le futur, ça peut arriver. Mais l'idée, c'est de proclamer la parole de Dieu directement, sans embâche, sans mâcher les mots, en déclarant peut-être les conséquences du péché ou des choses que les gens ont besoin d'entendre. Et donc c'est quelque chose d'important et on en voit bien des exemples dans l'Ancien Testament, évidemment, avec les prophètes, qui dans l'Ancien Testament avaient un office particulier. Mais donc c'est un don qui peut nous être fait d'avoir cette on voit une situation où on voit quelqu'un quelque chose et on a peut-être ce besoin d'annoncer, de dire un verset, de dire quelque chose de la parole de Dieu pour cette situation. Le deuxième qu'on voit ici, Alors on peut juste noter, parce qu'on est dans le passage, si quelqu'un a le don de prophétie qu'il exerce en accord avec la foi, il y a un élément de foi parce que cette personne va annoncer la parole de Dieu en pensant que c'est pour quelqu'un parce que quelqu'un en a besoin, mais sans être sûr et a besoin de cette foi de dire je crois que ce verset, je dois l'annoncer, je dois le communiquer. Ensuite, il parle du service, donc le deuxième point. Si quelqu'un est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Ici, c'est quelque chose qui répond à des besoins pratiques. On peut l'associer peut-être à l'idée du service des diacres dans l'Église. C'est l'idée de rendre service de manière pratique, qui voit quelque chose qui a besoin d'être fait, quelque chose de vraiment matériel ou physique. Dans Actes, dans le début de l'Église, on voit que les apôtres, ils avaient un problème parce qu'ils étaient à étudier la Bible et à prier et qu'il y avait en même temps des besoins pour servir à manger aux gens dans l'église et ils n'avaient pas le temps. Et donc ils ont dit, attends, on va en mettre quelques-uns de côté qui vont avoir ce rôle spécial de service et qui vont s'occuper de cette chose-là. Et donc c'est un service très important parce qu'on a bien des besoins matériels et physiques, mais c'est un besoin qui parfois est peu ou pas remarqué parce qu'on... Ça peut passer inaperçu. Peut-être vous n'êtes pas sûr si on vous demandait qui c'est qui vide les poubelles ou qui c'est qui nettoie les toilettes ici, vous n'allez peut-être pas être au courant. C'est pas les choses qu'on remarque forcément, mais c'est des choses dont il y a besoin. C'est un acte plein d'humilité et qui va glorifier Dieu par un service qui, justement, comme il n'est pas visible par les hommes, on s'en remet à Dieu pour le voir. Le troisième point, c'est l'enseignement. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement. Donc c'est quelqu'un qui va expliquer la vérité, qui va expliquer la parole de Dieu, qui va répondre à un besoin peut-être intellectuel, qui va exposer la parole de Dieu, qui va la clarifier, qui va la rendre vivante, qui va donner des exemples, qui va aider les gens à la comprendre et à l'appliquer. Pour ça, il y a besoin d'aimer étudier, regarder, se poser des questions, passer du temps dans la parole de Dieu. Un quatrième point, c'est l'exhortation. C'est l'idée d'encourager, mais c'est aussi l'idée de motiver l'auditeur à mettre en pratique la vérité, de pousser un petit peu. On peut penser à encouragement ou exhortation dans le sens peut-être quelqu'un va pas bien et on va l'encourager, mais il y a aussi l'idée de quelqu'un qui ne fait pas peut-être ce qu'il devrait faire et on l'encourage à avancer, à faire ce qu'il doit faire. Et donc il y a l'idée de pousser un petit peu, aider les gens à mettre en pratique la vérité. Et c'est souvent, ça peut être considéré comme un don qui va de pair avec le don d'enseignement. Parce que ça, on enseigne la parole de Dieu et d'exhorter ou d'encourager, ça peut être de mettre en pratique les choses qu'on vient d'enseigner. Quelqu'un disait que si on n'a que de l'enseignement, on va avoir des brebis grasses et prétentieuses, mais que si on a que de l'exhortation, on va avoir des brebis maigrichonnes qui ne peuvent pas appliquer ce qu'elles ne connaissent pas, qui ne savent pas trop, mais qui essayent. Que celui qui donne le fasse avec générosité. Le cinquième point, c'est générosité, qui est aussi dans d'autres traductions qui écrit libéralité. C'est l'idée de répondre à des besoins matériels ou financiers, des besoins en moyens pour que la vérité soit proclamée, pour que l'Église puisse avancer. Ça peut être de donner généreusement sans publicité, sans se mettre en avant. Et c'est quelque chose évidemment d'important aussi pour que l'Église puisse fonctionner, pour que l'Église puisse avancer, des personnes qui donnent de manière généreuse c'est quelque chose, on peut parfois peut-être se dire, ces choses, on les entend et on se dit, ouais, mais c'est pas vraiment spirituel. Mais la Bible nous dit que c'est un don spirituel. Et Dieu, en même temps, il voit les besoins spirituels, les réalités spirituelles, et en même temps, il est très conscient des réalités physiques et matérielles et nos besoins pratiques. Il n'est pas détaché de ça. Dieu n'est pas un Dieu mystique, bizarre, qui nous appelle à renoncer à tout ce qui est pratique et humain. Il sait ce dont nous avons besoin tant spirituellement, émotionnellement, mais aussi physiquement et matériellement. Et il sait ce dont l'Église a besoin pour continuer à fonctionner, pour continuer son œuvre dans le monde. Et pour ça, il permet à certaines personnes d'avoir ce don, d'avoir des ressources en plus. Peut-être des personnes qui ont moins de temps pour participer activement aux activités de l'Église, mais qui, par leur travail ou leur activité de côté, a des moyens en plus et peut permettre à d'autres d'accomplir le ministère. Le sixième point, que celui qui préside le fasse avec zèle. Suivant les traductions, il y a présider ou diriger, il y a l'idée d'administrer, et donc c'est le besoin d'organisation, de direction. C'est quelqu'un qui va avoir un grand désir de voir tout organisé, de voir les choses qui fonctionnent, qui marchent, qui sont en place. On voit que c'est quelqu'un qui doit le faire avec zèle, qui doit le travailler. C'est quelque chose aussi dont l'Église a besoin. On est des êtres humains, on a besoin que les choses soient organisées, on a besoin de savoir ce qui se passe, on a besoin de savoir qui fait quoi, comment on fonctionne de manière pratique. Et là aussi, c'est un grand besoin dans l'Église. Et il y a plusieurs exemples, soit dans la vie de Jésus, soit dans les Actes, sur des besoins d'organisation, de choses qui soient administrées. Le dernier point ici, c'est le septième point, c'est dans notre traduction ici, que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. Là aussi, suivant les traductions, c'est bienveillance ou miséricorde. C'est de montrer de la compassion et de la miséricorde pour les gens qui sont dans le besoin, qui peuvent être dans un besoin matériel ou un besoin peut-être qui sont malades ou peut-être émotionnellement, mais qui ont besoin de gens qui aient un cœur pour venir et être avec eux dans une épreuve ou dans le malheur. Quelqu'un qui va les soutenir et être avec eux. Et on voit qu'il doit le faire avec joie, qu'il doit venir et aider à pas se laisser amener dans la dépression, mais amener de la joie à la personne à laquelle il va venir donner une aide. Alors c'est sept points. Encore une fois, je passe extrêmement rapidement dessus. On pourrait s'attarder de manière très longue. Une chose qui est très intéressante à faire et que je ne prends pas le temps de faire ce matin, c'est on peut regarder toutes ces choses en application dans la vie de Jésus. On avait parlé du fait que Jésus, avant de commencer son ministère, l'Esprit vient sur lui, et on croit que Jésus, d'une certaine manière, était un exemple complet de ces choses. Et donc, on peut trouver des exemples de chacune de ces personnes, de chacune de ces dons. Et vous dites peut-être, je vois pas trop l'administration ou la finance, mais on se souvient d'un passage où les disciples avaient besoin de payer l'impôt et il va fournir de l'argent pour eux par un miracle. D'autres situations où il voit une foule qui a besoin de manger, il est tard, et quand on regarde ce passage avec précision, on voit qu'il va organiser, qu'il va diriger, administrer, il va leur dire mettez-les par groupe. Amenez-moi ce que vous avez à manger, on va organiser les choses, distribuer, ramasser. Et donc toutes ces choses et les autres dons qu'on va regarder après, on peut les voir dans la vie de Jésus. Et c'est très intéressant et très important, évidemment, de regarder la vie de Jésus pour, comme notre exemple, notre objectif. Et on peut aussi le voir dans l'Église, dans le livre des Actes notamment, où on voit le Saint-Esprit à l'œuvre dans l'Église qui vient de naître, et on peut voir ces dons et ces choses à l'œuvre. Alors, je vous disais que ce sont des dons de motivation, des choses qui vont sous-tendre un petit peu notre manière de voir les choses, notre manière de réagir face aux situations. Ce sont des dons, la Bible nous explique que nous avons tous au moins un don spirituel, mais nous pouvons aussi en avoir plusieurs. Mais je voulais vous donner un exemple un peu pratique pour comprendre un petit peu cette idée de motivation. Et ces choses, si on prend une illustration qui a été reprise d'un auteur anglophone, mais de voir qu'on peut réagir face à une situation de manière différente. Et l'exemple qu'il donne, c'est quelqu'un qui casse un verre en faisant la vaisselle et qui dit... celui qui a reçu le don de prophétie peut dire voilà ce qui arrive quand on empile trop de vaisselle sur un petit endroit, ça va finir par glisser. Il va proclamer des vérités pour essayer de changer des habitudes, des comportements. Quelqu'un qui a le don de service va peut-être dire je vais aider à le ramasser, je vais aller prendre ce qu'il faut, nettoyer, etc. Quelqu'un qui a un don d'enseignement va peut-être dire bon ben le verre s'est cassé parce qu'il est tombé de haut et parce que tu l'as posé alors qu'il n'était pas bien équilibré et va essayer d'expliquer, théoriser la situation, expliquer peut-être le pourquoi ou le comment ça s'est passé. Celui qui a l'exhortation va dire ben la prochaine fois ne fais pas les choses comme ça, tu devrais faire autrement pour éviter que ça se reproduise dans le futur. Celui qui a le don de libéralité ou de générosité va dire c'est pas grave, je peux en racheter d'autres, c'est pas grave si on en a cassé un, on ira en chercher d'autres. Celui qui dirige ou qui organise va dire bon ben toi va chercher un balai, vous faites attention de pas marcher sur les trucs, un tel va chercher la poubelle, etc. va déléguer les choses. Quelqu'un qui a de la miséricorde ou de la bienveillance va s'attarder sur la personne qui a cassé la chose, peut-être qu'il se sent mal à l'aise et va dire mais c'est pas grave, ça peut arriver à tout le monde, etc., etc. C'est super gentil, tu voulais faire la vaisselle pour aider, donc on t'en veut pas. Et donc on voit que face à une même situation, on peut réagir de plein de manières différentes. Et Dieu nous donne des dons spirituels à chacun qui vont nous faire réagir face à des situations différentes de manière différente. Et donc ce sont des choses qui vont motiver nos comportements dans l'Église. Ensuite, on peut regarder ensemble les dons de maturation dans Éphésiens 4. Donc dans Éphésiens 4, à partir du verset 11, il dit « C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tasses du service, en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Donc ici, ce sont, on va dire, des ministères ou des offices particuliers que Dieu donne à certaines personnes, avec un but précis qui est, ici il est écrit, de nous faire parvenir à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Nous faire croître à tous égards en celui qui est le chef, Christ. On avait parlé du fait les semaines dernières, les deux précédentes, que l'Esprit Saint cherchait à nous rendre comme Jésus, voulait nous transformer pour que nous devenions plus comme Jésus. Et donc ici, il donne ces dons de maturation pour faire grandir les croyants. C'est quelque chose qu'il donne. Parfois, on prend la chose à l'envers en disant « je vais aller me former peut-être ou rechercher une position », alors que c'est plutôt l'idée que Dieu révèle un rôle ou une position dans nos vies, dans l'Église, à travers notre service et notre présence de manière continue. une fois qu'on est conscient de ce don, il est important de chercher à se former et à bien y répondre, notamment avec ces dons de ministère ou d'office. Mais donc il y en a 4 ou 5, suivant comment on divise les choses. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a celui d'apôtre. Nous pensons que le ministère des apôtres, les 12 apôtres qui sont dans le Nouveau Testament, était un ministère très spécial dans l'histoire de l'Église, mais qu'ensuite Dieu donne ce don spirituel, cet office, à des personnes pour implanter, pour fonder des églises. Le mot apostolos, qui donne apôtre, c'est quelqu'un qui est envoyé avec une mission. Et donc c'est peut-être quelqu'un d'un type missionnaire qui va venir, qui va implanter une nouvelle église, qui va insuffler de nouvelles choses dans l'église, qui va établir de nouvelles choses, qui va avoir ce zèle pour créer des activités, des ministères. Ensuite, il y a le prophète. Là aussi, on pense que c'est différent de l'office de prophète qu'on voit dans l'Ancien Testament. Il n'y a pas forcément la même autorité ou la même position que dans l'Ancien Testament. Mais ce sont des personnes que Dieu appelle pour recentrer l'Église sur le message central de l'Évangile, de proclamer avec force la parole de Dieu pour aider l'Église, pour peut-être amener les gens ou les églises à se tourner, à revenir à la parole de Dieu, de revenir à l'Évangile. Encore une fois, ça peut être des annonces de choses, de vérités à venir, mais nous pensons que c'est aussi simplement la proclamation avec force de la vérité de Dieu. Si vous venez dans une église depuis un certain temps, peut-être que vous avez eu cette expérience où quelqu'un vient vous dire « j'ai un verset pour toi » et qui peut-être va vous donner un verset ou quelque chose, et ça peut vraiment vous atteindre et vous dire « mais comment tu sais que tu devais me lire ce verset-là » Et il y a cette idée-là que la parole de Dieu donnée à quelqu'un à un moment précis, avec juste le verset, juste le passage, juste la chose qu'il faut, peut nous parler de manière incroyable et nous dire « waouh, c'est pas quelque chose d'humain, c'est Dieu qui voulait me dire quelque chose ». Le troisième ministère, c'est celui d'évangéliste. Ce sont ceux qui sont appelés à faire grandir, à faire avancer les églises, à annoncer l'évangile d'une manière simple, avec une grande conviction et avec une grande persuasion, qui ont un cœur vraiment pour aller chercher et annoncer l'évangile à des personnes qui ne l'ont pas entendu. Ce sont des personnes qui regardent le monde avec des yeux où ils disent « mais il n'y a que des gens qui ont besoin de l'évangile et qui sont perdus ». Et qui vont toujours chercher, dans quel que soit l'endroit où ils sont, à parler de Jésus-Christ et de l'Évangile. Paul précise, alors on en parlera brièvement après, mais que nous sommes tous appelés à faire cette chose-là, à tous témoigner de Jésus. Mais il y a des gens qui reçoivent quelque chose en plus et un zèle en plus pour accomplir ce ministère. Et puis le quatrième point, la raison pour laquelle je vous disais 4-5, c'est parce qu'ici dans le texte il est dit pasteur ou berger et enseignant, berger qui est le même mot qui donne le mot de pasteur, et nous croyons, et je pense quand on regarde le texte original, alors il y a des discussions théologiques un peu plus poussées que ce que je veux faire ce matin, mais sur l'idée que peut-être c'est deux offices différents, mais dans le passage on voit que c'est berger et enseignant et que c'est un peu quelque chose qui est uni et qui est ensemble. C'est quelqu'un qui veut s'occuper, qui veut aimer les croyants dans l'Église et qui, pour leur bien-être et pour les faire comme un berger, va amener ses brebis sur des verts pâturages pour qu'ils mangent ce qui est bon. Un pasteur ou un berger dans l'Église va vouloir aussi les enseigner et leur donner de bonnes choses à manger spirituellement, et qu'ils aient la parole de Dieu, qu'ils soient bien enseignés, bien en bonne santé grâce à la parole de Dieu. Donc ces quatre ministères sont des ministères, je vous disais, de maturation, qui vont faire grandir l'Église, qui vont faire croître les croyants dans l'Église, qui vont faire avancer chacun des croyants. Ce qui est intéressant et important à noter avant de passer à l'autre point, c'est que le verset 12 dit « Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service ». Et ici, l'idée, c'est que ces quatre offices sont présents dans l'Église et Dieu les donne à des personnes dans l'Église pour former les saints, pour que les saints, c'est-à-dire les croyants, les gens dans l'Église, soient prêts et équipés pour les tâches du service. Parfois, on dit oui, c'est les pasteurs, prophètes, évangélistes, c'est eux qui font l'Église, qui font le service, le ministère. Et nous, on est juste, moi, je suis juste un croyant lambda. Et en fait, là, il est dit que ces quatre offices sont là pour nous former, pour qu'après, nous accomplissions la volonté de Dieu là où nous sommes dans nos vies, que ce soit dans le monde et dans l'Église. Et donc c'est important, nous avons tous une responsabilité, encore une fois. Alors le dernier volet de ces dons ce matin, c'est dans 1 Corinthiens 12, et c'est ce que j'avais intitulé les dons de manifestation. C'est pas moi qui ai inventé ces intitulés, je les ai repris à d'autres pasteurs, mais je trouve que c'est une bonne manière de les catégoriser. Et ce sont des dons de l'Esprit qui sont donnés, nous croyons en général de manière plus ponctuelle, bien que certaines personnes peuvent les exercer et recevoir ces dons de manière plus continue, mais pour manifester la présence de Dieu dans l'Église de manière forte et de manière plus peut-être visible ou miraculeuse. Et donc on va regarder la liste, on passe encore une fois avec le chrono, ce matin je suis en course, mais à partir du verset 8 de 1 Corinthiens 12, « En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre des dons de guérison par le même Esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même Esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » Donc nous voyons ici 9 dons qu'on pourrait appeler des dons de manifestation. Il y a la parole de sagesse, la parole de connaissance, la prophétie, la foi, les dons de guérison, l'opération de miracles, diverses sortes de langues, l'interprétation des langues et les discernements des esprits. Je vais passer brièvement dessus. Encore une fois, ce sont des choses dont on peut voir les exemples dans le Nouveau Testament, dans la vie de Jésus et dans la vie des apôtres et dans l'Église des premiers jours. La parole de sagesse, ça va être une application de la vérité. Ça va être dans une situation donnée, face à quelque chose, la capacité de dire « Tiens, il me vient tel verset ou telle chose et nous devrions l'appliquer et y obéir » comme ça. La sagesse, on dit parfois que c'est la vérité ou la connaissance appliquée. Et donc c'est l'idée de dire, face à une situation particulière, comment est-ce qu'on doit se comporter, qu'est-ce qu'on doit faire, je crois que j'ai telle chose et je sens que c'est comme ça ou c'est par rapport à cette vérité que nous devrions agir. On peut penser, il y a un exemple pour nous aider, c'est par exemple Jésus, quand les pharisiens viennent le mettre à l'épreuve par rapport à l'impôt qui est dû à César. Et il va dire, mais donnez-moi une pièce. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur la pièce? Bon, ben, c'est. Et on a le sentiment que c'est la réponse parfaite au moment donné pour savoir comment se comporter. Et Dieu peut le donner à chacun d'entre nous si nous sommes face à une situation de prier, de demander cette sagesse. La parole de connaissance, c'est une révélation de la vérité. Dieu sait tout et il peut nous révéler de manière surnaturelle des choses, des informations, peut-être face à une situation. Moi, j'en ai jamais fait l'expérience, mais j'ai entendu des pasteurs partager que face à quelqu'un qui était en train de demander de l'aide ou qui exprimait un besoin, ou Dieu leur a dit « Ah, mais un tel a un problème avec ça, ou il y a telle chose, et c'est une révélation d'une vérité qui permet de d'avoir un ministère pour la personne ou de prier de la bonne manière pour la personne. Ensuite, il y a la prophétie. On a vu qu'il y avait les prophètes, ce don de prophète peut-être dans l'Église, mais c'est la proclamation de la vérité, encore une fois. C'est d'annoncer, de proclamer la parole de Dieu face à une situation pour que ça montre vraiment le cœur de Dieu face à peut-être une situation ou à une personne ou à un problème. Ensuite, il y a le don de la foi. La foi est toujours un don. Nous avons besoin de la foi pour être sauvés. Mais parfois, peut-être, face à certaines situations spéciales, on a besoin d'une foi pour la situation. Peut-être quelque chose nous arrive et face à cette situation, vous dites, Dieu peut passer à travers ça. Peut-être ça a l'air impossible, peut-être ça a l'air pas quelque chose qui arrête ce que nous faisons, ou quelque chose de complètement impossible, mais nous avons la foi, et on pourrait dire que c'est une foi peut-être spéciale qui est donnée à un moment propice par le Saint-Esprit pour peut-être faire quelque chose d'incroyable, peut-être faire des miracles, des choses qui suivent ici dans notre liste, mais c'est quelque chose d'important, et on voit dans la vie de Jésus qu'il est souvent question. Et parfois avec les disciples, ils disent « Mais pourquoi on n'a pas pu faire ça ?» Et il dit « Mais parce que vous n'aviez pas de foi, vous n'aviez pas le don de foi. » Je donnerai, il m'est venu quelque chose, mais je donnerai juste à la fin là une petite liste de mise en garde par rapport à ces dons. Donc comme ça m'est venu là, mais je préfère le dire après. Nous devons faire attention par rapport à ces dons, par rapport à la manière dont nous les utilisons, la manière dont nous en parlons. Les dons de guérison, ce sont simplement des capacités particulières que Dieu peut accorder à certains croyants pour, dans une situation, permettre la guérison physique de quelqu'un, ou peut-être la guérison émotionnelle ou à un autre niveau, mais c'est quelque chose de miraculeux. Ensuite, il dit l'opération de miracle. La capacité de faire quelque chose qui nous semble surnaturel. D'autres expressions, c'est les prodiges ou les signes. Et là aussi, c'est avec les dons de guérison, c'est l'idée que nous avons un Dieu et nous croyons à un Dieu qui peut faire au-delà de ce que nous avons, nous, comme limite dans le monde. Si nous croyons à un Dieu qui a créé le monde que nous voyons, si Jésus est réellement qui il est et qu'il est ressuscité, alors il est capable du miracle, il est capable du surnaturel. Et il peut, à un moment donné, pour sa gloire, pour faire avancer son royaume, permettre à quelqu'un de faire quelque chose de miraculeux. Et ce n'est jamais pour glorifier la personne, c'est pour glorifier Dieu, pour se glorifier. Ensuite, nous voyons diverses sortes de langues, aussi appelées le parler en langue. C'est la capacité de prier Dieu ou de le louer dans une langue que nous ne connaissons pas. C'est un don qui cause malheureusement beaucoup de divisions, qui ne doit ni être surestimé, ni minimisé ou mis de côté. Pour l'apôtre Paul, dans ce que nous voyons dans ses listes, c'est un don comme les autres. Il ne met pas en avant par rapport aux autres. On voit qu'il y avait peut-être déjà des problèmes dans l'utilisation de ce don dans l'église chez les Corinthiens. Parce que Paul en parle dans le chapitre 14 et nous donne des consignes pour l'utilisation de ce don. Que s'il est utilisé en public, il doit être fait de manière respectueuse, avec ordre, et qu'il doit avoir le don suivant qui s'exerce en même temps, l'interprétation des langues. Il dit qu'on peut que c'est un don qui est en général donné pour le croyant, pour s'édifier lui-même quand il prie par lui-même, mais que ça peut aussi être utilisé de temps en temps avec, de pair avec cette interprétation. Et l'interprétation des langues, c'est un don qui va de pair, où quelqu'un va pouvoir expliquer ce qui vient d'être annoncé, ce qui vient d'être prié en langue. Et puis le dernier de ces dons de manifestation, c'est le discernement des esprits. Et c'est l'idée que face à une situation ou un comportement, peut-être une parole, que quelqu'un est capable de dire s'il s'agit de quelque chose qui vient vraiment de la part de Dieu ou si c'est quelque chose qui vient de la sagesse humaine ou peut-être même qui vient par l'influence de Satan qui veut tromper. On pourrait presque parler d'une sorte d'intuition pour comprendre que c'est quelque chose de biblique ou pas. Et on peut, l'exemple qui nous aide à le comprendre, c'est par exemple quand Pierre parle avec Jésus et il lui dit « tu es le Messie » et Jésus lui dit « c'est Dieu qui te l'a révélé ». Et deux secondes après, Pierre dit « non, il ne faut pas que tu ailles à la croix ». Et Jésus dit « non, ça c'est Satan qui t'a mis ça, c'est pas la vérité de Dieu ». Et donc c'est une intuition pour savoir si quelque chose est divin ou pas. Alors ces dons sont des dons donc, qu'on a vus explicitement, ce sont les listes sur lesquelles on revient en général dans la plupart des études là-dessus. Mais si vous regardez des livres ou si vous lisez dans la Bible, si vous cherchez par exemple le mot « charis », vous trouvez d'autres éléments. Paul va mentionner le célibat en disant que c'est un don que Dieu m'a fait. Et donc on peut penser qu'éventuellement c'est d'une certaine manière un don spirituel que Dieu fait d'être satisfait en condition de célibataire. On pourrait parler peut-être de l'hospitalité. Il y a des gens qui viennent sur tout ce qui est un côté artistique, de création artistique, que ce soit dans la louange, la musique. Il y a des passages dans l'Ancien Testament où on voit l'Esprit de Dieu qui vient sur des personnes et qui leur permet de louer le Seigneur. On voit dans la construction du temple qu'il est dit de certains artisans que l'Esprit de Dieu est venu sur eux pour pouvoir accomplir de belles choses pour pour construire le temple. Et donc, on peut se dire peut-être qu'il y a des dons spirituels qui permettent une créativité artistique ou une habileté manuelle. Il y a aussi peut-être l'idée que le fait de pouvoir souffrir pour la foi, peut-être d'être, par exemple, fait martyr, c'est peut-être un don aussi. Quand Paul parle aux Thessaloniciens notamment, il y a cette idée que peut-être c'est un don que Dieu nous fait de pouvoir souffrir pour la foi, pour l'œuvre de Dieu, avec une aide spirituelle, quelque chose que Dieu nous donne. Je donne ces derniers points juste pour nous montrer qu'il y a une diversité forte, qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer sous ce giron des dons de l'Esprit. Et que je ne pense pas que ce soit arrêté à une liste ou l'autre, ici dans le Nouveau Testament. Mais encore une fois, nous voulons essayer de nous en tenir à ce qui est biblique. Et donc pour finir, quelques considérations sur ces dons, sur comment les utiliser et peut-être certains pièges dans lesquels pas tomber. Les objectifs de ces choses, ce sont les objectifs de l'Esprit. C'est des dons de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui nous permet de faire certaines choses. Et donc, c'est pour glorifier Dieu et Jésus. C'est pour témoigner de Jésus. Et c'est aussi pour édifier l'Église, pour édifier les croyants. On a vu que Paul était très clair que nous avons chacun un rôle à jouer. La Bible nous explique que nous recevons tous un ou plusieurs dons et que nous avons une responsabilité de nous en servir. Et si vous connaissez la parabole des talents de Jésus qui dit il y a un maître qui a donné quelques trucs à 10 pièces à une personne, 5 pièces à un autre et un à un autre serviteur, il est parti, puis il revient et voit ce qu'ils en ont fait. Et on voit qu'il accorde une certaine responsabilité à ces personnes. Ils ont pris ce qu'ils avaient reçu et ils en ont fait quelque chose. Et donc Dieu veut que nous les utilisions. quelques mises en garde. Nous devons faire attention de ne pas utiliser ces dons pour des gains personnels, pour des ambitions personnelles ou égoïstes. Malheureusement, c'est un grand danger pour nous parce que nous sommes charnels et nous avons un problème perpétuel avec l'orgueil. Et nous pouvons peut-être recevoir ces choses, mais nous devons rester humbles et exercer ces dons avec de l'humilité. Ce sont des grâces, ce sont des dons. Ce n'est pas parce que nous sommes incroyables ou parce que nous avons mérité quelque chose ou parce que nous sommes si doués. Ce sont des dons, ce ne sont pas des badges de mérite. Et malheureusement, c'est une tendance. Ça vient rapidement. Même, par exemple, moi, je vous parle ce matin, peut-être quelqu'un vient me dire après, il dit « Ouais, t'as bien parlé, etc. » Et je me dis « Ouais, j'ai bien parlé. » C'est vrai, mais c'est parce que j'ai bien travaillé. Parce que je suis... ça va vite, c'est sournois. C'est tellement... Quelqu'un qui, peut-être, vous dit un verset, vous dites « Ouais, c'était un verset de la part de Dieu. » Et tu dis « Oui, mais... parce que je prie, je suis spirituel, donc Dieu me donne des choses, tu vois. » On peut penser à Brice de Nice, par exemple. En caricature, oui, je suis béni des dieux, c'est tout. Et malheureusement, dans beaucoup de situations, c'est notre comportement et notre pensée, on en rigole, mais malheureusement, c'est notre cœur. Malheureusement, dans trop de situations, dans trop d'églises, et ce sont les raisons pour lesquelles je crois que ces dons causent beaucoup de divisions, parce que nous les exerçons avec une fierté, avec un orgueil qui pourrit l'utilisation de ces choses. Dans toutes ces choses, notre caractère est important, et plus important à la limite que ce que nous pouvons accomplir comme prodige ou comme chose incroyable pour Dieu. Si nous, et on y revient dans 1 Corinthiens 12, Paul finit en disant « Je vais vous montrer une meilleure voie ». Et dans tous ces passages, si vous vous attardez et vous notez, il est question de l'amour. Il est question de la motivation et du pourquoi de ces choses. Et c'est toujours pour aimer Dieu, pour glorifier Dieu et pour aimer ceux autour de nous. Et tous ces dons doivent être utilisés sous cette condition par amour pour Dieu. Dieu a dit, si vous m'aimez, vous allez faire ce que je vous dis de faire, mais aussi pour aimer ceux qui sont autour de nous. Dieu nous dit que le signe de sa présence et que nous sommes ses enfants, c'est l'amour qui règne entre nous. Il dit que des signes et des prodiges vont nous accompagner, mais il ne dit jamais que c'est un signe ou une preuve de sa présence parmi nous. Et Jésus, dans un passage qui donne la chair de poule, dit, il y en a plein qui vont venir me voir à la fin et vont me dire, j'ai fait plein de prodiges et de signes en ton nom. Et moi, je vais leur dire, je ne vous ai jamais connu. Et donc, ces choses doivent rester dans un équilibre, dans une place où nous attardons une importance à l'amour, à notre caractère, à notre connaissance de la Bible. Nous avons ces choses-là que nous devons essayer d'exercer, que nous devons rechercher, comme Paul nous dit, mais nous avons beaucoup de choses auxquelles nous ne pouvons pas nous soustraire. Parfois, on peut faire une excuse des dons de Dieu. Quelqu'un nous dit « Ouais, est-ce que tu veux faire telle chose? Est-ce que tu veux enseigner à l'école du dimanche ?»« Non, je n'ai pas le don d'enseignement. » Ou « Est-ce que tu veux venir parler à cette personne de Jésus ?»« Non, moi, je n'ai pas le don, je ne suis pas un évangéliste. » Et donc, on ne doit pas en faire une excuse. On doit faire attention aussi de ne pas projeter nos dons, et notamment nos dons de motivation, sur les autres. Quelqu'un qui est évangéliste, qui a envie d'annoncer la parole de Dieu, peut très facilement se frustrer des gens en disant « Oui, mais qu'est-ce qu'on fait là? On étudie la Bible, on devrait être dehors à évangéliser. » Quelqu'un qui a le don de service, peut-être, qui voit « Ah tiens, il y a quelque chose qui a besoin d'être fait », peut se frustrer et juger ses frères et sœurs en disant « Ouais, mais eux, ça leur est égal, ils ne voient pas les besoins pratiques, les choses qui ont besoin d'être faites. » Quelqu'un qui... Et on voit que ces dons, on peut les projeter sur les autres et se dire « Ah, eux, ils sont pas... » et les juger parce que moi, ce qui me motive n'est peut-être pas ce qui les motive eux. Et on doit garder cet esprit aussi que nous avons chacun notre rôle à jouer. Et si peut-être moi, je suis doué pour le service, gloire à Dieu, je vais essayer de faire le service du mieux que je peux. Et heureusement qu'il y a d'autres personnes qui ont le don de, peut-être de générosité ou le don de, pour compléter, parce que moi, je suis juste ou je suis surtout capable de ça. Donc, ne pas projeter et juger les autres par rapport à ces choses-là. Là aussi, c'est quelque chose qui peut causer beaucoup de conflits et de problèmes dans l'Église. On ne veut pas tous avoir tous le même don. On veut qu'il y ait une diversité parce que c'est à ce moment-là que ça fonctionne bien. Et puis l'autre point, et je m'y attarde juste parce que c'est quelque chose là aussi, je pense, d'important, c'est qu'il n'y a pas d'obligation. Dans 1 Corinthiens 12, il finit en disant « Est-ce que tous sont apôtres? Est-ce que tous sont prophètes? Est-ce que tous sont enseignants? Est-ce que tous font des miracles? Tous ont-ils des dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils ?» Et c'est une question rhétorique en disant « Non, on n'a pas tous les dons. » Et certains mouvements d'église, malheureusement, je pense que ce n'est pas biblique, nous annoncent que si nous n'avons pas certains dons, alors nous avons un problème, ou nous sommes peut-être moins spirituels, ou pas assez, ou peut-être pas sauvés. Et je pense que c'est une mauvaise logique et une mauvaise conclusion par rapport au texte de la Bible. Et ensuite, peut-être le dernier point, c'est que nous devons faire des efforts. Paul parle à Timothée et il lui dit « Ne néglige pas les dons que tu as reçus. Efforce-toi de les mettre en pratique, de les développer. » Et nous avons ces dons qui viennent, mais nous avons aussi une responsabilité. Si Dieu nous donne le fait d'enseigner, on ne va pas dire « Bon, ben, j'ai le don d'enseigner, donc je n'ai pas besoin de lire la Bible. » Je suis un bon enseignant. Non, on a besoin d'étudier la Bible et de s'y attarder pour développer ce don. Si on a peut-être le don de générosité, on ne doit pas juste dire « bon, ben, je vais plus rien faire et tout donner, et après j'aurai fini ». On a un travail, on doit continuer et chercher à quand même à faire des efforts avec ces dons que Dieu nous fait. Alors, comment les recevoir? Comment les découvrir? Les recevoir, Paul nous dit de rechercher et nous prions le Seigneur pour les recevoir. On voit dans le Nouveau Testament différentes méthodes pratiques. Il y a peut-être demander à des gens d'imposer les mains et de prier pour nous, mais il y a simplement le fait de prier, de demander à Dieu. Ce sont des dons que Dieu fait par l'Esprit Saint dans nos vies, et la Bible nous dit de prier pour recevoir ces dons. J'ai ramené quelques exemplaires de questionnaires. Ça aide un petit peu. Alors, ce sont des choses qui ont été développées au XXe siècle avec des questions pour vous aider peut-être à identifier. Parfois, on n'est pas conscient, on n'a pas un regard sur soi pour savoir ce qui est votre don ou vos dons peut-être dans la vie spirituelle. Et il y a des questionnaires qui essaient d'aider en disant bon, ben, est-ce que tu as déjà réagi comme ça face à telle situation, etc., etc. Donc j'en ai imprimé quelques-uns, si ça vous intéresse, vous pouvez venir me voir, on peut en parler par la suite. Mais ça aide de rechercher un petit peu et d'avoir une compréhension de qui nous sommes. Ça a été développé un petit peu à l'idée des tests de personnalité qu'on peut faire dans le monde professionnel, par exemple, où on dit est-ce qu'on est plutôt introverti, extroverti, est-ce qu'on est plutôt un tel, etc., etc. Alors ces questionnaires ont leurs limites et leurs forces, mais ce sont de bonnes aides pour nous aider à trouver quels sont nos dons. Et l'idéal là-dedans, c'est que chacun d'entre nous puissions à peu près savoir, mais je pense que Dieu m'a donné tel ou tel don. On peut en parler et demander aux gens autour de nous dans l'église. Mais une fois qu'on a ça, ça nous aide à dire, bon, ben, je pense que j'ai tel ou tel don. Comment je les utilise? Et là, il y a des choses, des considérations pratiques en disant, bon, ben, si tu as tel don, il y a tel ou tel ministère, telle ou telle possibilité pour les mettre en œuvre, pour les pratiquer. Et donc l'idée, c'est par l'obéissance à Dieu, de dire « bon, ben, je crois que j'ai reçu tel et tel don, je veux les mettre en pratique, donc je vais essayer de m'impliquer dans l'Église, ou par ailleurs dans l'Église avec un grand E, pour les mettre en pratique. » Donc je voulais aussi vous montrer, avant de finir, ça c'est un livre, Pierre me l'a donné hier, donc ça, j'ai pas pu faire le développement de l'étude vraiment avec, mais qui est, alors, très, je pense, très bon et très complet, qui vous permet un peu de refaire une étude sur tous ces dons, de regarder ces passages, mais aussi avec un questionnaire. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez les commander et faire l'étude par vous-même. Ça permet aussi de s'impliquer mieux dans l'Église. Voilà, c'est tout pour ce matin. Peut-être pour finir, encore une note sur l'amour. Nous avons besoin d'utiliser ces choses, nous avons besoin de chercher à recevoir ces dons, de chercher à les utiliser pour la gloire de Dieu, par amour pour Dieu et par amour pour nos frères et sœurs ici dans l'Église. Et encore une fois, maintenant que je vous ai prévenu, que je vous ai expliqué ces choses, d'une certaine manière, je pense que je vous ai passé la responsabilité. Maintenant, vous n'êtes pas ignorant, donc maintenant, vous avez une responsabilité pour chercher à comprendre ces choses en tant que croyant et à les mettre en pratique. Prions. Si vous voulez vous lever avec moi. Seigneur, merci pour ta parole. Dieu, merci pour l'Esprit Saint qui vient dans nos vies, qui nous donne la capacité de vivre pour toi, qui nous transforme à l'image de ton Fils, qui nous fait des dons, qui nous donne des capacités spirituelles. Et on voit qu'il y a une telle richesse de dons, une telle richesse de ta part pour l'Église. Tu es un Dieu parfait qui voit tous les besoins, qui voit tous ceux dont nous avons besoin, tous ceux dont le monde a besoin, et tu veux donner. Et Seigneur, nous voulons recevoir ces dons, nous voulons t'aimer en obéissant à ta parole et en mettant en pratique chacun d'entre nous nos dons spirituels pour ta gloire, pour faire avancer ton royaume et pour que nous puissions tous ensemble grandir en toi. Dieu, merci pour ce temps ensemble. Je te prie de nous aider tous à digérer un peu ces choses. À recevoir, c'était beaucoup de choses, mais à pas les négliger, à pas les ignorer, Seigneur. Et nous prions pour ton corps ici et pour le corps de Christ dans le monde, Seigneur, que les croyants ne négligent pas leur rôle dans l'Église, Seigneur, que ton corps puisse fonctionner de manière bonne et normale. Merci pour notre Église, merci pour l'amour qui y règne. Déverse ton esprit sur nous, que nous soyons encore plus remplis de cet amour pour t'obéir et pour s'aimer les uns les autres. Merci Jésus pour ce temps ensemble. En ton nom nous prions. Amen.